France Culture, c'est l'heure du journal avec Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. Un président autoproclamé face à un président dont la réélection a été contestée. Situation inédite au Venezuela où les pros et les anti-Maduro donnent de la voix. Nous irons à Caracas. Nous reviendrons aussi sur les réactions internationales. À Davos, le secrétaire général de l'ONU rappelle l'urgence climatique. L'an dernier, les événements météorologiques extrêmes ont fait plus de 10 000 morts et touché plus de 62 millions de personnes. Un duo succède à Carlos Ghosn à la tête de Renault avec Jean-Dominique Senard et Thierry Bolloré. Le groupe tourne une page. Au sujet des Gilets jaunes, Laurent Wauquiez reproche à Emmanuel Macron son écoute tardive. Le président du parti Les Républicains a rencontré le chef de l'État avant son déjeuner débat dans la Drôme. Le Venezuela est en pleine rupture. Hier, des dizaines de milliers d'opposants au président Nicolas Maduro ont défilé dans les rues du pays et le président de l'Assemblée, Juan Guaido, s'est proclamé chef de l'État par intérim. Mais les partisans de Nicolas Maduro se font entendre, eux aussi, des militants chavistes plus motivés que jamais, comme le montre le reportage de Benjamin Delisle à Caracas.
Pour les partisans de Nicolas Maduro, l'idée selon laquelle Juan Guaido est en train d'opérer un coup d'État fomenté par Washington ne fait aucun doute. José, 60 ans, explique facilement la forte mobilisation dans les rangs de l'opposition.
Ces gens-là, on leur a lavé le cerveau. Chaque personne pauvre a été payée 40 dollars pour manifester avec Guaido.
L'hyperinflation, les pénuries de nourriture et de médicaments, tout cela n'a rien à voir avec la politique du président vénézuélien, selon lui.
À cause de la guerre économique, il y a un groupe de gens qui sont énervés, mais nous, les révolutionnaires, les personnes conscientes, on sait qu'on est victime d'un blocus des États-Unis et de tous les États impérialistes. Contre eux, on défendra la patrie avec les armes, dans la rue, s'il le faut.
Gloria est une chaviste convaincue. Grâce à la révolution, explique-t-elle, le Venezuela est sorti d'un système de castes très inégalitaire.
Cette révolution n'a laissé personne sur le carreau. Les personnes âgées, les enfants, les femmes enceintes, les femmes en général, toute la patrie, la jeunesse, tous ont été pris en compte. Aujourd'hui, on a une patrie, une vraie, pas une patrie vendue aux Nord-Américains et aux transnationales.
Tout comme l'opposition, le camp chaviste est déterminé à défendre ses positions jusqu'au bout, quel qu'en soit le prix.
Le général Padrino, ministre de la Défense du Venezuela, accuse Juan Guaido de coup d'État et le pouvoir vénézuélien a reçu le soutien de Cuba, du Nicaragua, de la Bolivie, également celui de la Russie et de la Turquie. Mais la communauté internationale est divisée. Omar Waman, le chef de file de l'opposition, a notamment reçu l'appui des États-Unis, du Canada et des gouvernements latino-américains orientés à droite.
Parmi les pays déterminés à voir tourner la page Maduro figure le groupe de Lima, une alliance composée de nations latino-américaines mais aussi du Canada créée pour trouver une solution pacifique à la crise vénézuélienne. Dans ce groupe de Lima, devenu ces derniers mois la bête noire de Caracas en raison de ses appels à ne pas reconnaître la présidence Maduro, figurent des pays comme l'Argentine, le Chili ou encore le Brésil de Jair Bolsonaro, totalement aligné sur la position américaine, à l'instar de la France, qui juge l'élection du successeur d'Hugo Chavez illégitime. Paris n'a eu de cesse ces derniers mois d'appeler à des élections libres au Venezuela. Mais ce matin, Emmanuel Macron est allé encore plus loin en dévoilant sur Twitter le positionnement de l'Union européenne. Dans un message rédigé en français mais aussi en espagnol, il a affirmé que l'Europe soutenait la restauration de la démocratie après l'élection jugée illégitime de Nicolas Maduro. Quelques mots clairs et directs au lendemain de l'annonce de Juan Guaido qui s'est autoproclamé président par intérim du Venezuela. Les prochaines heures s'annoncent décisives. La situation pourrait dégénérer après l'ultimatum des autorités vénézuéliennes qui ont donné 72 heures aux diplomates américains pour quitter le pays.
L'ancien opposant Félix Tshisekedi est officiellement président de la République démocratique du Congo. Il a prêté serment en présence de son prédécesseur Joseph Kabila et sous les ovations de ses partisans rassemblés autour du Palais de la Nation à Kinshasa. Anthony Fauchard a suivi cette cérémonie d'investiture.
C'est une marée blanche qui a déferlé sur le Palais de la Nation. Des dizaines de milliers de personnes habillées tout en blanc, Maboko Pembe, les mains propres, c'est le surnom de Félix Tshisekedi, le nouveau président.
Oui, les mains propres. On n'a jamais trempé nos mains dans la gestion du pays. nous ne sommes jamais tenus pour responsables de toutes les tueries qui se sont passées depuis l'accession de notre pays à l'indépendance.
Oui. Et si Félix Tshisekedi a les mains blanches, c'est qu'il est nouveau sur la scène politique. Son père, Étienne, s'est battu toute sa vie contre la dictature sans jamais parvenir au pouvoir. Félix, le fils, a repris le flambeau.
D'aucuns ne croyaient au message du fait Étienne Tshisekedi, qui disait toujours « l'UDP se vaincra et gouvernera ». Aujourd'hui, le message du prophète politique congolais se concrétise.
Mais Joseph Kabila, 17 ans à la tête du Congo, a certes cédé son fauteuil présidentiel, mais sa coalition, le FCC, a remporté la majorité absolue à l'Assemblée.
Mettons de côté que le FCC a la majorité parlementaire, cache comment M. Félix va diriger avec un peu de députés. Non, tout ça, ça ne nous engage pas. Que ce soit les députés du FCC, ils sont des Congolais. Que ce soit les députés de cache, ils sont des Congolais. Si nous visons vraiment l'intérêt de la population, pourquoi nous allons nous diviser?
Comment gouverner alors que le nouveau président élu ne dispose que d'une cinquantaine de députés, en nouant des alliances avec le régime sortant et en se partageant déjà le pouvoir et des postes ministériels? Pas sûr que cela soit le changement voulu par les Congolais.
Et rappelons que Martin Fayoulou, arrivé officiellement deuxième de la présidentielle du 30 décembre, dénonce un putsch électoral orchestré par Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. Il se proclame le seul président légitime. Le changement climatique court plus vite que nous, s'inquiète Antonio Guterres. Nous sommes en train de perdre la course et ce pourrait être une tragédie pour la planète, déclare le secrétaire général des Nations Unies en marge du Forum économique mondial de Davos. L'ONU fait les comptes. En 2018, les événements météorologiques extrêmes comme les tremblements de terre, les tsunamis ou les inondations ont touché près de 62 millions de personnes et fait plus de 10 000 morts, principalement en Asie. Une mortalité en légère baisse par rapport aux années précédentes, mais c'est bien la seule bonne nouvelle, Jérémy. Mélange.
Parmi les catastrophes recensées, ce sont les tremblements de terre et les tsunamis qui ont tué le plus l'an passé. L'Indonésie, située sur la ceinture de feu du Pacifique, est la plus affectée par l'activité sismique avec plus de 4400 morts. Les inondations, elles, touchent encore plus de monde. Plus de 35 millions de personnes, en majorité au Kerala indien, frappées par des intempéries hors normes l'été dernier. Autre phénomène, les tempêtes et les ouragans, de loin les événements extrêmes les plus coûteux économiquement. Record annuel pour l'ouragan Michael en Amérique centrale et aux États-Unis. Les dégâts sont estimés à 16 millions de dollars. 16 millions de dollars, c'est également le coût des incendies aux États-Unis, les plus meurtriers que le pays ait connus depuis un siècle. Tout cela devrait encore s'amplifier en 2019 à cause du réchauffement climatique, bien sûr, mais aussi à cause d'El Niño. Le phénomène météo dans le Pacifique pousse à la hausse les températures au niveau mondial. Un tremblement de terre plus important que les autres n'est pas non plus à exclure, selon les experts.
Et personne n'est épargné par le phénomène. Si l'Afrique est plus que jamais exposée à la sécheresse, l'Europe est également concernée. Elle va sans doute devoir s'habituer aux vagues de chaleur et à leurs conséquences. Debarati Gwasapir a contribué au rapport de l'ONU. C'est la directrice du Centre de recherche sur l'épidémiologie des catastrophes à l'Université catholique de Louvain.
Les pays européens vont faire face à un problème des vagues de chaleur et vagues de froid. Vagues de froid, je crois que les pays ici sont plus ou moins préparés pour. Mais vagues de chaleur, ils le sous-estiment dans une façon très importante, surtout de le côté médical. La problématique se pose surtout pour les personnes plus âgées ou les personnes avec les insuffisances cardiaques. Vous savez très bien que les problèmes cardiaques dans les pays européens sont les premières pathologies. L'insuffisance cardiaque et la démographie fait que les populations en Europe sont extrêmement vulnérables et nous ne voyons pas une réduction dans la fréquence et l'intensité de la vague de chaleur.
Debarati Gwasapir au micro de Jérémy Lanche. Le géant chinois des télécommunications, Huawei, réplique. Plusieurs pays occidentaux, dont la France, s'alarment des risques de sécurité posés par le réseau d'internet ultra rapide 5G que Huawei s'apprête à lancer. Les États-Unis, l'Australie et le Japon ont déjà interdit la 5G chinoise dans leur pays, d'où cette riposte du numéro 2 mondial des smartphones qui dénonce le climat politique actuel. On retrouve Dominique André à Pékin.
Signe de sa puissance, pour lancer sa contre-offensive, Huawei a invité la presse dans l'un de ses 14 centres de recherche et de développement dans le monde. Le show a duré une journée. Richard Yu, qui dirige la branche business du géant mondial, s'en est pris aux politiciens qui mènent une campagne pour nuire, dit-il, à son groupe, fondé par un ancien ingénieur de l'armée chinoise.
Certains politiciens s'efforcent de nous influencer. Malgré ce brouhaha, nous progressons bien. Nous offrons à nos clients le meilleur choix, la meilleure qualité, le meilleur système systèmes de sécurité, les meilleures technologies. Dans cet environnement politique compliqué, nous maintenons une bonne croissance. En 2018, nos ventes ont progressé de 50% et cette année, nous aurons une croissance solide. Nos clients ont confiance en nous.
Richard Yu a balayé une nouvelle fois les soupçons qui pèsent sur Huawei en réaffirmant que le gouvernement chinois n'avait jamais exigé d'avoir des informations sur ses clients. Il n'a pas commenté l'affaire de l'arrestation de la directrice financière de Huawei le mois dernier au Canada à la demande des États-Unis, mais le groupe s'engage clairement dans une contre-offensive et une opération de communication à l'échelle mondiale alors qu'il s'apprête à lancer son nouveau réseau d'Internet ultra-rapide 5G.
Retrouver de la sérénité, c'est la priorité pour le groupe Renault et pour sa nouvelle direction. Après la démission de Carlos Ghosn, toujours incarcéré au Japon, Jean-Dominique Senard devient président du groupe automobile et Thierry Bolloré, directeur général. Un changement de tête qui va de pair avec un changement radical de management à leur choix.
Oui, on le rappelle, Jean-Dominique Senard, c'est le patron qui avait été choisi par le gouvernement pour fournir un rapport avec Nicole Notat sur la façon de mieux intégrer les enjeux sociaux et environnementaux dans les stratégies d'entreprise. Pour le dire vite, sur la responsabilité sociale de l'entreprise, rapport dont une version édulcorée sera discutée la semaine prochaine au Sénat. Et dans ce rapport, on trouve notamment la volonté de responsabiliser les actionnaires ou de renforcer le rôle et le nombre des salariés administrateurs. C'est donc effectivement sur une note différente, très différente, que débute l'après-Ghosn. Ce dernier avait multiplié les bras de fer avec le premier actionnaire de Renault, l'État français, quand Jean-Dominique Senard est porté au pinacle par Emmanuel Macron, qui avait qualifié il y a tout juste un an Michelin d'entreprise française modèle. Le nouveau PDG de Renault défend en effet un capitalisme apaisé, raisonné, social, un rien paternaliste, ajoutent ses détracteurs. Selon lui, une entreprise fonctionne bien si elle arrive à responsabiliser ses employés et c'est pour prouver cela qu'un changement complet de méthode managériale a été mené sous son impulsion chez Michelin en 2010-2011. Plus d'autonomie, plus d'attention donnée aux envies et aux idées des collaborateurs. Un management réinventé qui est le seul exemple de cette ampleur en France. Michelin compte en effet 110 000 employés. Cette philosophie qu'on appelle aussi l'entreprise libérée s'exerce également à l'international. L'année dernière, le magazine Forbes qualifiait Michelin de meilleur employeur d'Amérique. L'homme est aussi contesté en interne, notamment sur les sites dans lesquels ont été négociés des accords sur le temps de travail. Il dialogue tant qu'on est d'accord avec lui, fait remarquer un membre de la CGT Michelin. En tout cas, ce sens du dialogue devrait lui être utile avec son numéro 2, pour rétablir la confiance de son allié japonais à un dossier ultra prioritaire.
Jean-Dominique Senard va rester président de Michelin jusqu'à expiration de son mandat en mai. Emmanuel Macron promet de se rendre dans toutes les régions métropolitaines dans le cadre du grand débat national. Il n'est donc qu'au début de son périple. Aujourd'hui, le chef de l'État est dans la Drôme et il a rencontré une soixantaine de maires le temps d'un déjeuner débat à Valence, Laurent Sénéchal.
Les 60 maires ont pris la parole les uns après les autres. Après une brève introduction du président, Emmanuel Macron les a appelés à être libres dans leurs questions. Le chef de l'État a ensuite pris des notes. Il a écouté patiemment les élus évoquer leurs inquiétudes sur le manque d'infrastructures dans les transports, sur le manque de moyens dans la santé ou sur les questions fiscales toujours centrales depuis le début de ce grand débat. Et la prise de parole peut-être la plus attendue a eu lieu à la fin. Le président de région, Laurent Wauquiez, qui est aussi le patron du parti Les Républicains, a accusé Emmanuel Macron d'avoir tardé avant d'être à l'écoute. Le chef de l'État lui a répondu quasiment directement. Il faut voir l'état dans lequel on a pris le pays. Parfois, quand on a des responsabilités, on se défausse sur la tête du président, a déclaré Emmanuel Macron. Pour avoir le dernier mot, Laurent Wauquiez, qui tente toujours de se placer en premier opposant au président, a pris la parole après la réunion. Il a mis en garde Emmanuel Macron, qui, selon lui, organise des déplacements dans une bulle. Il faut aller à la rencontre des citoyens, lui conseille Laurent Wauquiez. C'est aussi l'avis du ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, qui était du déplacement dans la Drôme.
Dans sa lettre aux Français, juste avant de lancer le grand débat national, Emmanuel Macron avait évoqué le financement de la transition écologique. Comment rend-on les solutions concrètes accessibles à tous, demandait le président, par exemple pour remplacer sa vieille chaudière ou sa vieille voiture. Eh bien, un nouveau dispositif entre justement en vigueur, la prime à la conversion des chaudières. Elle doit permettre aux Français les plus modestes d'acquérir une chaudière moins polluante pour seulement un euro, Véronique Rebérotte.
Oui, un euro, ce sera vraiment pour les ménages les plus modestes. Quoi qu'il en soit, les démarches seront les mêmes pour tout le monde dès ce mois-ci, dès maintenant. Des opérateurs comme EDF, Engie ou de grands groupes comme Total s'engagent à solliciter, regrouper pour vous toutes les aides possibles, celles qui existent déjà, du crédit d'impôt au chèque énergie, et d'avancer s'il le faut les fonds nécessaires au changement de votre vieille chaudière pour avoir, pourquoi pas, au final, grâce à des démarches ultra simplifiées, une chaudière au prix d'une baguette de pain, affaire à saisir pour Frédéric Hutzmann de la société EFI, société experte en efficacité énergétique. Elle a été sollicitée pour mettre en place cette prime à la conversion des chaudières.
On ne fait aucun démarchage, aucune prospection. C'est les gens qui viennent s'inscrire, qui remplissent quelque part des questionnaires avec leurs critères de revenus, etc. Et là, ils vont être appelés par un interlocuteur unique qui va les accompagner dans l'ensemble de leur parcours, dans le montage des dossiers des aides qu'on va réaliser, mais on va demander les documents justificatifs, jusqu'au choix des entreprises qui vont intervenir, qu'on a référencées, et le choix des produits qui vont être installés. Donc tout l'accompagnement est fait par un interlocuteur unique.
Une chaudière à 1 euro, c'est pas une chaudière au rabais.
C'est très important, les travaux à 1 euro, avec le pacte énergie de solidarité, ce n'est pas des travaux au rabais. On est très exigeant à la fois sur la qualité des équipements, qui sont vraiment des nouvelles générations de pompes à chaleur, que sur les qualifications des entreprises de pose qui interviennent.
Enjeu climatique et social, bien sûr, explique le ministère de l'écologie, car avec une nouvelle chaudière, les factures vont baisser de façon spectaculaire. Le gouvernement espère donc changer dans les deux ans au moins 600 000 chaudières au fioul sur les 3 millions de chaudières individuelles vétustes recensées.
Véronique Rebérotte. La CGT et la Ligue des droits de l'homme demandent à la justice de suspendre en urgence l'utilisation des lanceurs de balles de défense, les fameux flashballs. Leur argument, il faut mettre fin aux blessures graves pendant les manifestations. Bonsoir Antoine Marette.
Bonsoir.
Vous avez assisté à l'audience cet après-midi. Depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, le 17 novembre, la LDH a reçu environ 90 signalements dénonçant des violences des forces de l'ordre.
Et une bonne partie de ces violences implique ces fameux flashballs, des armes qui tirent des balles de caoutchouc utilisées par la police. Elles ne sont pas létales, en théorie, mais peuvent blesser, voire invalider définitivement les personnes qui les reçoivent, en particulier au visage ou aux parties intimes. Pour maître Harry Halimi, qui représente la Ligue des droits de l'homme et deux victimes de flashball, ces armes sont dangereuses, elles doivent être interdites en urgence, c'est-à-dire avant la manifestation de samedi.
La spécificité de ces armes, notamment leur puissance, leur absence de précision, le fait qu'elles sont utilisées dans le cadre du maintien de l'ordre avec des cibles mouvantes, imprécises, comme d'ailleurs l'a rappelé à plusieurs reprises le défenseur de droit, ne permet pas de s'assurer de l'innocuité ou de la possibilité d'utiliser ces armes dans le cadre légal qui lui est fixé, c'est-à-dire un cadre de légitime défense des fonctionnaires de police ou un cadre qui permet de rétablir l'ordre sans causer trop de victimes ou des blessures beaucoup trop importantes, voire peut-être des risques de létalité, parce que à ce jour, ni le ministère de l'Intérieur ni la préfecture n'ont produit d'estimation quant à la non-létalité de ces armes, alors qu'ils les appellent armes non létales.
De son côté, la représentante du ministère de l'Intérieur estime que la liberté de manifester existe, certes, mais pas la liberté de manifester violemment. Et l'utilisation des LBD par les forces de l'ordre se fait dans un cadre légal précis pour disperser un attroupement ou comme moyen de légitime défense. C'est pour éviter le recours aux armes létales que les LBD sont utilisés. La représentante du ministère de l'Intérieur, qui n'a pas souhaité s'exprimer à notre micro, a ajouté pendant l'audience: le ministère de l'Intérieur ne crée pas la violence, il réagit à la violence.
Le tribunal administratif de Paris doit rendre sa décision ce soir ou demain matin. Que s'est-il passé au 36 quai des Orfèvres dans la nuit du 23 avril 2014 ? Une touriste canadienne accuse deux policiers de viol. Au 9e jour de leur procès, l'un des deux accusés a donné pour la première fois sa version des faits. Compte rendu d'audience de Florence Thurme.
Je veux bien avoir fait des erreurs dans cette histoire, mais jamais je n'aurais fait des saletés pareilles, jamais je n'aurais non plus couvert un collègue qui aurait fait une saloperie pareille. À la barre, le policier s'exprime tranquillement depuis le début du procès, lui et son collègue nient le viol dont les accuse Émilie Spanton, mais c'est la première fois qu'il s'exprime sur les faits. Version totalement opposée à celle de la jeune touriste canadienne qui a accompagné son collègue au 36 après un début de soirée très arrosé dans un pub irlandais. La porte de son son bureau était fermé, raconte-t-il. J'ai entendu des rires, je me doute qu'il se passe quelque chose, je ne le dérange pas. La porte s'ouvre, continue l'accusé. Émilie Spanton apparaît en short, sans collant, seins nus. Elle se met à danser en nous demandant de prendre une photo. Puis son attitude va changer du tout au tout, affirme-t-il. Elle va commencer par dire qu'on lui a volé son manteau. Vous n'avez visiblement pas assisté à la même scène, intervient l'avocat général. Pourquoi dirait-elle avoir été violée si c'est faux? Cette question, je me la pose aussi depuis toutes ces années, rétorque le policier. Le premier officier appelé sur les lieux se souvient de l'avoir trouvé, lui et son collègue, très calme, à son arrivée au 36 le matin. La jeune femme, elle, m'a dit à deux reprises en anglais « ils m'ont violée ». Les mots s'entrechoquaient, mais son discours restait cohérent, poursuit le commissaire. Il se rappelle avoir dit « ça sent pas bon cette histoire ». Elle était pieds nus, ses chaussures à côté d'elle, visiblement en état de choc, conclut le témoin. Pour moi, il s'était vraiment passé quelque chose.
Florence Turmo au palais de justice de Paris. Demain vendredi, le temps sera généralement couvert avec de faibles pluies, encore un peu de neige des Ardennes au massif central. Dans le sud-est, temps sec avec de belles périodes ensoleillées. Il fera froid avec des minimales souvent négatives. L'après-midi, 1 à 4 degrés du nord-est jusqu'à Auvergne-Rhône-Alpes, 4 à 8 ailleurs, 8 à 12 de la Bretagne jusqu'à l'Aquitaine et sur le pourtour méditerranéen. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.